Voilà pour l'idée fausse. Il nous reste à étudier l'idée douteuse, c'est-à-dire à chercher en quoi consiste ce qui peut nous conduire au doute, et en même temps, comment le doute est levé. Je parle du doute véritable dans l'esprit, et non de ce doute qui se rencontre maintes fois, à savoir quand, par le langage, on prétend douter, bien que l'esprit ne doute pas. Ce n'est pas à la méthode qu'il appartient de corriger ce doute. Cela rentre plutôt dans l'étude de l'obstination et de son traitement. Il n'y a pas dans l'âme, disons-nous donc, de doute dû à la chose même dont on doute. C'est-à-dire s'il n'y avait dans l'âme qu'une seule idée, qu'elle fût vraie ou fausse, il n'y aurait pas place pour aucun doute et pour aucune certitude. Il n'y aurait qu'une sensation de telle ou telle sorte. Car cette idée n'est rien en soi de plus qu'une sensation de telle ou telle sorte, mais le doute se forme par le moyen d'une autre idée qui n'est pas si claire et distincte qu'on n'en puisse rien conclure de certain à l'égard de la chose dont on doute. C'est-à-dire que l'idée qui nous incline au doute n'est pas claire et distincte. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais eu la pensée occupée de l'illusion des sens, si elle vient de l'expérience ou a une autre origine, ne doutera jamais si le soleil est plus grand ou plus petit qu'il ne paraît. C'est ainsi que les paysans s'étonnent maintes fois quand ils entendent dire que le soleil est beaucoup plus grand que le globe terrestre. Mais le doute prend naissance en pensant à l'illusion des sens. Et si, après avoir douté, on parvient à la connaissance vraie des sens et de la façon dont, par leurs organes, les choses sont représentées à distance, alors le doute sera de nouveau levé. Il suit de là que nous ne pouvons mettre en doute des idées vraies sous prétexte qu'il existe peut-être un dieu trompeur qui nous tromperait dans les choses les plus certaines, sinon quand nous n'avons encore de Dieu aucune idée claire et distincte. C'est-à-dire quand, par la considération attentive de la connaissance que nous avons de l'origine de toute chose, nous ne trouvons rien qui nous fasse savoir que Dieu n'est pas trompeur aussi clairement que, par la considération attentive de la nature du triangle, nous trouvons que ces trois angles sont égaux à deux droits. Mais si nous avons de Dieu une connaissance telle que du triangle, alors tout doute est levé. Et de même que nous pouvons parvenir à cette connaissance claire du triangle, bien que ne sachant pas avec certitude si quelque souverain trompeur ne nous égare pas, de même aussi nous pouvons parvenir à une telle connaissance de Dieu, bien que ne sachant pas avec certitude s'il n'existe pas quelque souverain trompeur. Et sitôt que nous avons cette connaissance, cela suffit, comme je l'ai dit, pour lever tout doute que nous pouvons avoir au sujet des idées claires et distinctes. De plus, si l'on procède droitement, s'appliquant d'abord à la recherche de ce qu'il faut chercher premièrement, suivant sans aucune interruption l'enchaînement des choses, et si l'on sait comment on doit déterminer les problèmes avant d'entreprendre de les résoudre, on n'aura jamais que les idées les plus certaines, c'est-à-dire claires et distinctes. Car le doute n'est rien d'autre que l'indécision de l'esprit à l'égard d'une affirmation ou d'une négation qu'il prononcerait, s'il ne trouvait devant lui quelque objet dont l'ignorance doit rendre imparfaite la connaissance de la chose affirmée ou niée. Il ressort de là que le doute naît toujours de ce que les choses sont étudiées sans ordre.